Comment allez-vous ce matin, mes bien-aimés? Eh bien, nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons, vous comme moi, cette merveilleuse promesse qui, lorsque nous nous retrouvons ensemble pour rendre le culte à notre Dieu, devient une réalité que Jésus se plaît à accomplir. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Jésus dit « Je suis au milieu d'eux ». Alors ce matin, nous sommes là pour dire « Seigneur, merci pour ta présence, bienvenue au Saint-Esprit racheté et que par le Saint-Esprit ce matin, nous tous, puisque tu es le centre de ce rassemblement, nous fixions nos yeux sur toi. » Un peu comme faisant ce que le Saint-Esprit dans l'Épître aux Hébreux mentionne d'une manière merveilleuse que celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et nous savons que s'il a été couronné de gloire et d'honneur, c'est un peu le résultat de son œuvre accomplie, son œuvre achevée, puisque dans la prière du sacerdoce, il dira à son Père, « Maintenant, Père, l'heure est venue, glorifie moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Donc ça veut dire, il anticipe sur l'œuvre de la croix, le sacrifice qu'il est venu accomplir pour satisfaire tout ce qu'exige la justice et le jugement de Dieu, pour que sur la base d'une œuvre de rédemption parfaitement accomplie dans le plan de Dieu, selon son dessein, selon sa volonté, selon sa préscience, eh bien, là où le jugement de Dieu devait tomber sur le pécheur à qui cela était destiné, en fonction de sa repentance et de sa conviction, alors la grâce de Dieu lui soit non pas imposée, mais proposée. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, il faut que lui aussi mette du sien pour l'accepter. Et son acceptation n'est pas autre chose que la conviction du Saint-Esprit avec moi de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que derrière tout ce que nous avons expérimenté, frères et sœurs en Christ, tout est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est son œuvre. Je comprends le prophète qui, dans sa relation avec Dieu, dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Et puis il est conscient, Éternel, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous sommes objets de sa grâce, et je suis heureux de ce que Dieu permet que non seulement aujourd'hui soit pour nous un jour de grâce, c'est lui qui permet que nos yeux voient le jour, c'est lui qui a renouvelé à notre égard ses bontés, ses compassions. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, grand souverain sacrificateur, a intercédé auprès du Père en notre faveur, et le Saint-Esprit, entrant en action, a mis en nous de bonnes dispositions pour que nous soyons présents, eu égard au fait que Dieu a fait de nous des vrais adorateurs. Est-ce que vous croyez que Dieu a fait de nous de vrais adorateurs? Oui, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Parce que c'est pas par nous-mêmes. Et puis, dans le même cadre, vous pouvez la jouer le chant, eh bien, c'est Jésus qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et cette personne-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux ce matin, frères et sœurs en Christ, de ce que Dieu permette, que malgré le Covid-19, malgré le temps pluvieux et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il a permis que dans nos cœurs, la réalité de son service, de lui rendre le culte, soit comme une priorité. C'est pas nous qui formons ça en nous. C'est Dieu qui forme en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et nous sommes heureux de ce qu'il permette que nous soyons là ce matin, que son nom soit béni. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, nous avions commencé à voir, avec la grâce de Dieu, ce que nous avions défini comme étant les conditionnels divins. Il y avait déjà quelques-uns, nous avions déjà fait un petit tour d'horizon. Le Saint-Esprit nous y avait conduit. Nous avions considéré dans le psaume 127, mais cette déclaration de Salomon, qui dans ce cadre-là a été un instrument particulier dans la main de Dieu pour construire le temple de Jérusalem, puisque David, son père, en a eu le désir. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a dit à David, « Tu es un homme de guerre, tu as versé beaucoup de sang, et bien ce n'est pas toi qui bâtiras le temple, mais ce sera ton fils. » Et en disant cela, Dieu a pris soin de donner des gens responsables auprès de Salomon, qui ont été très utiles avec autant leur connaissance que leur compétence pour pouvoir mettre en place non seulement la construction, mais déjà les éléments de la construction du temple de l'Éternel. Et puis, les choses ont été merveilleusement accomplies, de telle manière que lorsque le temple a été accompli, a été terminé, il a fallu prendre un temps aussi pour ce qu'on appelle communément la dédicace. Et tellement Dieu a approuvé ce qui avait été fait par Salomon, la Bible nous dit que lorsque les sacrificateurs qui officiaient, ont fait leur travail, lorsqu'ils ont invoqué Dieu, la gloire de l'Éternel avait rempli la maison de Dieu sous la forme d'une nuée qui avait rempli l'espace, de telle manière que les sacrificateurs qui officiaient ont été conduits à se retirer pour laisser la gloire de Dieu se manifester dans son temple. Et derrière cette gloire de Dieu, cette nuée qui remplissait le temple, aujourd'hui nous l'appliquerons à l'image de l'action du Saint-Esprit. Lorsque les choses sont faites comme Dieu veut qu'elles soient faites, alors le Saint-Esprit se met en action et il remplit les croyants, il prend possession des lieux, et c'est comme si véritablement Dieu se montrait à son peuple. Alléluia. Par exemple, lorsque nous chantons un cantique qui est inspiré par le Saint-Esprit, nous voyons qu'à ce moment-là, Dieu est glorifié au travers de ce cantique, alors le Saint-Esprit descend et remplit les croyants. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs en Christ, c'est-à-dire que quand Dieu se manifeste, son désir est que toute main de chair soit ôté et que toute la gloire lui soit donnée. Gloire à Dieu. C'est vrai que nous considérons ça en regardant le temple, ce qui s'est passé. Mais le temple ce matin, c'est toi mon frère, c'est moi. L'apôtre nous le dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ainsi donc, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et cette gloire de Dieu dans nos cœurs, c'est pas quelque chose que les yeux voient, c'est spirituel. Mais si les yeux de l'homme ne le voient pas, les yeux de Dieu le voient. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, quelle place le Saint-Esprit, en action met-il Dieu dans ton cœur? À quelle place? Pour ma part, je tâche de faire tout ce qui est en mon pouvoir et je vais laisser Jésus-Christ assis sur le trône de mon cœur. Alléluia! Tout à l'heure, nous avons vu que le frère nous a entraînés dans les louanges. Il disait que Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Et il m'est arrivé de vous dire que lorsque Dieu siège, celui qui siège, il est assis sur son trône et il fait deux choses. Il regarde et il écoute. N'est-ce pas? Mais les yeux de l'Éternel ce matin sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais si ses oreilles sont attentives, donc il écoute, regarde et il écoute. Si ses oreilles sont attentives à nos prières, ses oreilles sont aussi attentives à nos louanges, à nos actions de grâce. En sondant nos cœurs et nos reins, il pèse en même temps, ce qui se passe en nous, il pèse les intentions de nos cœurs, et lorsqu'il trouve véritablement des conditions réunies et qu'il le glorifie, alors il est à l'aise pour agir, il est à l'aise pour bénir, fortifier, encourager, secourir, soutenir, relever, alléluia, exhorter, fortifier, et ainsi, frères et sœurs en Christ, il agit pour glorifier son nom et son enfant, son peuple est béni. Alors, nous avons vu comment Salomon avait mentionné ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ceux et celui. Pour bâtir, c'est celui. Mais pour veiller, non. Pour bâtir, c'est ceux. Pour veiller, c'est celui. Cela veut dire que Dieu nous individualise dans la réalité de veiller sur soi-même. Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, mais tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Ailleurs, il lui dira que personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, c'est un modèle pour les autres. Alors, quand il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, c'est comme si il lui dit, mais surtout toi, ne méprise pas ta jeunesse. Mais oui, c'est lui le premier qui est concerné. Et plus Dieu a de la valeur pour nous, frères et sœurs en Christ, plus nous allons désirer l'honorer dans nos vies. Plus nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que son nom soit glorifié dans nos cœurs. Et quand Dieu est glorifié dans un cœur et dans une vie, non seulement sa grâce est notre partage, mais en même temps elle est sur nous comme un manteau qui nous recouvre, mais aussi comme un bouclier qui nous protège. Alléluia. Vous savez, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, dans une circonstance particulière, après que Abraham ait déjà reçu les promesses, Dieu lui dira à Abraham, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Cela veut dire que Dieu s'engage dans toutes les péripéties qu'il va connaître à se mettre entre lui et le monde, entre lui et les ennemis. Et particulièrement, cela sera vérifié lorsque, malheureusement, une famine étant survenue en Égypte, pas en Égypte, une famine étant survenue dans le pays, là où il était, Canaan, alors, rapidement, les yeux de la chair le conduit à entrevoir, eh bien, ce qui va découler de cette famine, et obligatoirement, hop, il prend la fuite. Il descend en Égypte. Et dès lors qu'il descend en Égypte, ça veut dire qu'il a quitté le terrain de la bénédiction initiale, et obligatoirement, frères et sœurs en Christ, lorsqu'on quitte le terrain de la bénédiction, là où Dieu nous a placés, et nous allons nous retrouver rapidement sur le terrain des compromis. Ah ben oui, notre vieille nature est championne pour nous amener dans des compromis. Alors le voici dans des compromis, tu dis, ah, c'est ma sœur, etc. Tu es une femme de belle figure, voilà, donc il fait un arrangement pour essayer, bon, d'entrevoir comment il va gérer la situation et s'en sortir. Quelqu'un a dit quelque part, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. La précipitation, frère et sœur, c'est un danger pour notre âme. Parce qu'elle nous fait toujours bien prendre des décisions hâtives. Et fort souvent, une décision hâtive est une décision prise sans réflexion. Et s'il n'y a pas de réflexion, ça veut dire que la sagesse nous a fait défaut. Et si la sagesse fait défaut, automatiquement, il y a un manque de discernement. Car l'ensemble est lié. Écoutez, notre maître Jésus-Christ, il a été confronté à toutes sortes de situations. Mais pour chaque situation, il avait une parole appropriée et qui montrait que ce qu'il disait était empreint de sagesse, d'intelligence, de réflexion, et ça menait toujours celui qui avait reçu la parole à entrer en lui-même pour examiner son état de cœur. Par exemple, dans les paraboles, lorsqu'on faisait remarquer à Jésus certaines choses, il répondait, mais lorsqu'il répondait, la réponse qu'il donnait à celui qui avait posé la question était fort souvent en rapport avec l'état de cœur et l'état de pensée de celui qui avait posé la question, plus qu'une réponse à la question elle-même. De telle manière que ça obligeait celui qui avait posé la question à entrer en lui-même et à s'examiner par rapport à ce qu'il venait de dire. Frères et sœurs en Christ, ce matin, notre maître est au milieu de nous. Écoutez, il connaît mon cœur, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Mais le grand rappel, c'est que derrière cette déclaration de Salomon, eh bien, ça veut dire que c'est Dieu qui bâtit. Il bâtit dans nos vies son plan, son dessein, sa volonté. Et derrière ce plan qu'il a commencé à bâtir, mis en œuvre, Mais il y a une destination finale qui ressemble fortement à l'achèvement de ce que Dieu a entrepris. Et cela amène l'apôtre Paul à une persuasion qu'il déclare aux Philippiens. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Car la destination finale, c'est ça. Terminer la course terrestre dans de meilleures conditions, c'est-à-dire dans la croix, fermer les yeux ici-bas, et puis attendre que le Seigneur nous amène à expérimenter ce que Jésus a promis, la résurrection des justes. Frères et sœurs en Christ, est-ce que vous croyez à la résurrection des justes? Vous êtes sûr que vous y croyez? Alors comment se fait-il qu'il y a 5 qui m'ont répondu? Non, c'est vrai, ce sont des choses qui sont peut-être loin de nous. Nous pensons. Mais Dieu, notre Père Céleste, vous le savez comme moi, il ne considère pas les choses comme les hommes les considèrent. Vous comme moi, nous voudrions avoir, ici-bas, la meilleure vie possible. Ne manquer de rien, ne pas connaître la maladie, ne pas avoir de soucis. Eh bien, laissez-moi vous dire que tout ce à quoi nous aspirons et voulons le vivre ici-bas, c'est là-haut que nous allons le vivre. Écoutez, quelqu'un avant nous, eh bien, il est passé par ce chemin de la souffrance. La Bible nous dit que Jésus a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. D'autres versions disent que pour obéir, il fallait souffrir. Et dans le témoignage qui est rendu de lui, il est dit qu'il a méprisé l'ignominie en endurant l'opposition de la part des pécheurs. Il a compris, bien qu'il soit fils, appris bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Mais tout cela, frères et sœurs en Christ, c'est en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel. Et la joie de notre Seigneur ce matin au milieu de ses rachetés, c'est de voir que nous qui l'avons jamais vu sur le plan physique, nous l'aimons. Que nous croyons en lui sans le voir. Mais nous réjouissons d'une joie ineffable parce que nous avons compris qu'il y a une grande rémunération qui s'attache à notre appel, c'est que nous obtiendrons le salut de notre âme pour prix de notre foi. Voilà pourquoi ces légères afflictions du moment présent ne sauraient être comparées au poids de gloire éternelle qui nous est réservé dans le ciel. Certes, je vous le dis, nous aimerions ne pas souffrir, ne pas connaître de difficultés, mais c'est une manière pour Dieu notre Père Céleste de nous stimuler à continuer à travailler. Un enfant du Père, il a mis la main à la charrue, mais il est au rang de ceux qui ont compris qu'il ne faut plus regarder en arrière. Car quand je mets la main à la charrue, ça veut dire que je suis appelé à l'activité. Regarder en arrière, c'est perdre du temps et c'est le regard de l'incrédulité. Tandis que regarder vers l'avant, c'est le regard de la foi. Et c'est quand le regard de la foi est mon partage et mon lot que le Saint-Esprit me stimule à continuer, à persévérer, à combattre. Je n'ai jamais lu dans la Bible qu'il faut prendre du recul. Non. Seigneur, je souffre, c'est vrai, le combat est là, mais plus le combat est là, plus je m'attache à toi. Je suis comme Jacob qui a compris que il ne faut pas que je te quitte tant que tu ne m'as pas béni. Je ne te quitterai pas tant que tu ne m'as pas béni. Et la plus grande bénédiction, vous le savez, c'est qu'avant que Dieu change son nom, il a été frappé à l'emboîture de l'ange. Et derrière ça, il y a quelque chose qui ressemble fortement à une allégorie. La hanche est frappée, c'est la chair. Mais il pourra dire, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Nous recevons le salut de notre âme pour prix de notre foi. Et tout au long de la marche chrétienne, c'est la foi qui va nous faire nous attacher aux promesses. Et parce que je suis attaché aux promesses, alors Dieu se plaira à les accomplir dans ma vie, les unes après les autres, que son nom soit béni. Faisons une lecture dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. La semaine dernière, nous avons vu comment, à l'heure de la dernière Pâque, je résume, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, eh bien, a donné dans l'évangile de Jean, chapitre 13, à ses disciples, eh bien, un exemple leur disant, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous m'appelez le Seigneur et le Maître, et vous dites bien parce que je le suis. Cependant, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si vous savez ces choses, dira Jésus, alors vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Alors, j'avais dit à l'Église que derrière les paroles de Jésus, c'est comme si, un temps soit peu, il voulait nous entraîner dans son sillage. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. En lavant les pieds des disciples, il n'a pas exempté Judas. Donc, il nous a montré, frères en Christ, un bel exemple d'amour, parce que la Bible nous dit même, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Jean 13:1, il mit le comble à son amour pour les siens qui étaient dans le monde. Et puis, aussitôt après, nous voyons qu'il se défait, il laisse ses vêtements, il se ceint de linge, il va commencer à laver les pieds de ses apôtres. Et arrivé à Pierre, vous savez son attitude, non jamais tu me laveras les pieds. Je lui dis, mais Pierre, si je te lave pas les pieds, tu n'auras point part avec moi dans mon royaume. Alors, si c'est comme ça, Seigneur, non seulement les pieds, la tête et tout le corps, ça. Il passe d'un extrême à l'autre. Alors Jésus lui dit, Pierre, calme-toi. C'est moi qui le dis. Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Déjà, vous êtes purs, mais non pas tous, parce que Judas était encore là. Et derrière cela, nous avons compris que derrière cette image de se laver les pieds pour être entièrement pur, parce que dans le processus de l'époque, pour le juif, c'était absolument obligatoire lorsqu'il sortait. Eh bien, au dehors, il n'y avait pas des routes goudronnées comme aujourd'hui, c'était des routes poussiéreuses. Et étant sorti de chez lui pour aller au bain public, alors ses pieds avaient touché la terre. Lorsqu'il rentrait chez lui, c'était logique qu'on lui apporte un petit bassin avec de l'eau pour qu'il se lave les pieds, parce qu'ils avaient quand même certaines restrictions, certaines habitudes dues autant à l'hygiène, et ça se passait par divers qu'on appelle ablutions. Se lavait pour pouvoir aimer garder une certaine pureté. Alors Jésus prend cette image pour nous montrer que par la nouvelle naissance, celui qui est baigné, il est pur. Ce matin, frères et sœurs en Christ, tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance, Dieu les considère comme nettoyés, propres. Lavé, alléluia. Baigné. C'est ce que l'apôtre Pierre appelle le bain de la régénération. Alléluia. Ce matin, je suis né de nouveau. Alléluia. Et cette nouvelle naissance m'introduit dans la famille de Dieu. Dieu a fait de moi son enfant. Le frère Henri nous l'a rappelé tout à l'heure, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont pas nés de la chair, ils sont pas nés du sang, ils sont pas nés de la volonté de l'homme, mais c'est une naissance spirituelle, divine, mais qui sont nés, dites avec moi, de Dieu. Je suis né de Dieu. Dieu est devenu mon Père. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il me conduit, me conduit à m'adresser à lui, non pas comme le bon Dieu, mais je lui dis Père Céleste. Et quand je dis Père Céleste, je ne dis rien d'étrange, je dis ce qui est vrai, ce qui est logique, et ce qui découle de ce que Dieu a fait de moi en Jésus-Christ. Il m'a adopté. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, si nous savions le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu, si nous savions, mais quelquefois, vous comme moi, nous sommes liés par ce que nos yeux voient, par les circonstances d'ici-bas, par l'étroitesse de notre esprit. Et nous avons besoin que Dieu, dans sa grâce, nous rappelle les choses. Ce matin, je réfléchis. Ah, parce que ça m'arrive de réfléchir. Et vous réfléchissez un peu? Ça vous arrive aussi. Cette réflexion, frères et sœurs en Christ, elle était celle-ci. Hier, je reçois, non pas hier, avant-hier, je téléphone à un plombier Écoutez, je vous appelle, je vous partage pas mes secrets, mais je vous dis pour vous amener à ce que je pensais ce matin. Et vous allez comprendre pourquoi. Et il me dit, oui, monsieur Gentil, voilà, donc je lui dis, voilà, vous m'avez envoyé la facture, mais la facture n'est pas conforme, etc. Enfin, il dit, monsieur Gentil, quand j'arrive chez moi, je vous appelle. Je vous rappelle et nous allons voir ça ensemble. J'attends toute la journée d'hier, jusqu'à hier soir. Alors, puisqu'il m'a pas rappelé, alors j'ai dit, je vais le rappeler, pour qu'on nous puissions convenir et faire que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Malheureusement, son téléphone, c'était le répondeur, dit le numéro que vous demandez n'est pas attribué, alors que je l'avais appelé la veille. Alors, je dis, la réflexion me vient, quelle différence entre la parole de l'homme et la parole de Dieu. Et le Seigneur m'a mené à comprendre, Claude, tu vois, ma parole ne revient jamais à moi sans accomplir son effet. Pourquoi? Parce que ma parole m'engage moi. Et il y a un proverbe humain qu'on emploie, on dit quand même couramment, la parole de l'homme vaut l'homme. C'est humain, ça. Mais je crois que quand moi je donne ma parole à quelqu'un, je ferai tout ce que je peux pour honorer la parole parce que ma parole m'engage. Eh bien, Dieu, notre Père Céleste, lorsqu'il nous donne sa parole l'engage lui. Il veille sur sa parole pour l'exécuter, l'accomplir. Même sa parole ne revient jamais à lui sans accomplir son effet. Ce matin, frères et sœurs en Christ, Dieu s'est engagé envers nous. Vous savez comment il s'est engagé? Ah, il nous a donné beaucoup de promesses. Mais cet engagement, dans cet engagement, il y a surtout l'alliance qu'il a faite avec nous. Et quand c'est Dieu qui fait une alliance, le temps peut passer. Les circonstances peuvent vouloir démontrer le contraire. Mais Dieu veille toujours sur ce qu'il a dit pour l'accomplir. Et l'une des promesses qu'il nous a faites, qui ne fera jamais défaut, et qui nous donne deux garanties irréfutables, c'est que la mort de son fils, Jésus-Christ, est la garantie pour nous de notre salut, et sa résurrection est la garantie de notre justification auprès du Père. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes heureux ce matin. Alors, voilà la lecture que nous allons faire. Romains, le chapitre 8, verset 31. Romains 8, 31. Et j'ai déjà utilisé une bonne partie du temps qui m'est imparti, mais quoi qu'il en soit, c'est la parole de Dieu que je vais partager avec vous. Et même nous allons prendre le texte au verset 28. Et en le prenant au verset 28, nous allons voir tout un tas de paramètres qui seront à considérer pour nous amener à celui que Dieu veut nous rappeler ce matin. Alors, j'ai dit Romains, le chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste, tiens, un peu, c'est ce que je viens un peu de vous dire. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que vous dites amen à cela? Et ce matin, frères et sœurs en Christ, l'image que Dieu veut trouver de Jésus en moi, c'est tout ce que le Saint-Esprit est venu apporter en moi dans l'homme nouveau. Quand Dieu me regarde, c'est pas ce qui est de ma tête, de mon beau vêtement et de la manière que je suis habillé ni maquillé, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est ce que Jésus est en moi. Vous me croyez ou pas? Écoutez, frères et sœurs en Christ. Lorsque l'apôtre parle aux Colossiens pour les amener à comprendre la prééminence de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mais il va faire aussi un élargissement de la pensée pour nous amener aux païens. Il va parler de mystère qui a été caché dans tous les temps et de tous les âges, mais manifesté maintenant. Et ce mystère révélé parmi les païens, c'est Christ où en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc quand Christ est en nous, c'est dans l'homme nouveau qu'il vient tabernacler. Et étant dans l'homme nouveau, non seulement il tabernacle, mais il règne, il agit, il domine. Et lorsque le temps sera venu pour moi, pour toi, pour nous de quitter la terre, l'enveloppe sera mise dans un cercueil. Mais tout ce que je suis en Christ, c'est ce qui partira vers le ciel. Vous ne me croyez pas, on dirait. Mais vous, écoutez, vous avez si peu de réactions. Écoutez, je veux que vous réagissiez ce matin, mes frères et mes sœurs. Colossiens 3:1, qu'est-ce qui nous est rapporté? Si véritablement vous êtes né de Dieu, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il dit après? Parce que vous êtes mort. Il y a très peu de morts ce matin. Parce que vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est pas ce que je suis de papa et maman, Claude Gentil. Non, ça c'est pour le cimetière. Mais c'est ce que je suis en Christ qui paraîtra. Et ce que je suis en Christ, c'est dans l'homme nouveau. Donc nous sommes bien sur le bon terrain. Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et je vous dis que depuis quelque temps, j'ai fait beaucoup d'enterrements. Mais quand je fais l'enterrement, je ne parle pas du défunt de manière regrettable. Il a été ce qu'il a été avec la grâce de Dieu. Mais je parle de l'espérance qu'il avait dans le cœur. Je parle du travail du Saint-Esprit en lui. Et je sais que par la grâce que Dieu nous fait, frères et sœurs en Christ, mais dans ce cadre-là, c'est la plus belle de toutes les garanties qui nous est donnée. Ma garantie, c'est Jésus-Christ. Ma garantie, c'est ses promesses. Ma garantie, c'est sa parole. Mais ma garantie, c'est aussi ce que le Saint-Esprit met en moi comme une réalité que personne ne peut changer. Et quand je serai devant les portes de l'éternité, eh bien, cette réalité-là, cette garantie-là, eh bien, c'est elle qui m'amènera vers les hauteurs pour que l'ange de Dieu vienne prendre mon âme, mon esprit, et l'amener dans le repos en attendant que Dieu me donne une nouvelle enveloppe. Pour que cette âme sauvée et mon esprit réuni puisse former un être qui ressemblera à Jésus. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés, dites avec moi, enfants. Et nous le sommes. Et si ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, nous savons que quand cela se manifestera, tel il est, tel aussi nous serons. C'est pourquoi quiconque a cette espérance en lui se purifie comme Christ est pur. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Quand ceux qui l'ont connu d'avance, Romains 8, 29, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qui l'ont prédestiné, dites avec moi, il les a aussi appelés, hallelujah, par le message de la bonne nouvelle de l'évangile. Et ceux qui l'ont appelé, il les a aussi justifiés, hallelujah. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi... Ah, on n'est pas encore glorifié. Ça, c'est en route. Alléluia. Ça, c'est en route, frères et sœurs. Mais le Saint-Esprit le donne déjà comme une réalité divine. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que dirons-nous donc à l'égard de ce que nous venons de lire? Que dirons-nous donc? Il y aura beaucoup de choses à dire. Mais cela n'est pas autre chose, frères et sœurs en Christ, que ce qui découle du conditionnel divin. Si Dieu est pour nous, oh, alléluia, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors tu vas te l'approprier personnellement ce matin, et tu vas t'en faire une attribution personnelle. Si Dieu est pour moi, bon, alléluia. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh, je suis pas révolté, mais la foi me donne du zèle. La foi me donne de l'allant. La foi me donne de l'énergie. La foi me donne de la détermination. La foi me donne de l'assurance parce qu'elle me donne des certitudes. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et puis, le verset 32 nous fait entrevoir ce qui serait comme une conclusion de ce que nous venons de partager, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi, quoi? Comment? Toutes choses avec lui. Toutes choses. Je leur ai dit que frères et sœurs, qu'ils ont tout ce qui me concerne. Si Dieu est pour moi, il a prévu. Il s'en occupe. Il prend soin. Il se manifeste. Et quand je comprends ça, cela m'évite de me faire dans le Seigneur des cheveux blancs constamment, de me gratter la tête, me poser des questions, d'avoir un langage négatif, résultat de pensées négatives, fruit de réflexions négatives, conséquence d'attitudes négatives. Ce matin, Dieu m'a dit, Claude, mais si je suis pour toi, et je suis pour toi, alors qui sera contre toi? Sera-ce l'angoisse, l'épreuve, la tribulation, etc. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et j'ai noté autre chose qui va nous donner à entrevoir encore dans le même aspect tout le plan et le travail de Dieu pour nos vies. Tiens, verset 10 de Romains 5. Verset 10 de Romains 5. Alléluia. Merci, Seigneur. Car si un conditionnel divin qui s'attache à ce que nous venons de partager, nous avons lu le conditionnel divin, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais là, regardez. Car si, encore un conditionnel divin lié à ce que nous venons de lire, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, l'expression ô combien importante, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Frères et sœurs en Christ, derrière ce mot réconciliation, je me suis laissé aller à penser que pour me réconcilier avec quelqu'un, bon, je vais prendre une image pour pouvoir montrer un petit peu une supposition. Qu'avec mon frère Doré, nous ayons eu une grande grouille qui nous a fait rentrer dans une inimitié. Ça veut dire que nous sommes devenus ennemis. J'ai dit supposons, hein, mon frère et moi, on n'a absolument pas de brouille, supposons. Alors, dans la réalité qui découle de la brouille, je vais de plus en plus m'éloigner de mon frère. Et si je pouvais ne plus le voir dans mon champ de vision, mieux je penserais me porter. Je dis bien, je penserais me porter. Parce que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Mais si, par bonheur, je décide, après avoir examiné la situation, qu'elle doit changer, et que désormais, je dois faire une démarche constructive pour essayer d'améliorer la relation par une réconciliation. Alors automatiquement, si j'ai été éloigné de lui, à cause de notre inimitié, ce qui a causé la brouille, alors je dois faire un amendement et revenir vers lui. Et après être revenu vers lui, je ne veux pas revenir vers lui, simplement rester là à le regarder. Je dois m'adresser à lui. Ben oui, c'est lors d'un partage, d'un entretien, d'une concertation, d'un dialogue que nous allons maintenant arriver à un compromis. Mais ce compromis, obligatoirement, doit être le fruit de la reconnaissance de mes torts. Et puis, de lui faire maintenant, non pas des reproches, mais en me repentant, je lui dis, mon frère, je te demande pardon, parce que, des excuses dans un premier temps, si c'est un plan humain, des excuses, mais si c'est quelque chose qui a un rapport spirituel, les excuses sont pas simplement suffisantes. C'est un pardon qu'il faut demander. Et après, ce qui nous a bouillé maintenant, cela va se dégager parce que nous avons une relation, une explication, et on s'est demandé pardon mutuellement. Moi, je lui ai demandé pardon, et puis il me dit, voilà, on fera aussi tout. Donc, ça veut dire que ce qui avait causé la brouille, maintenant, se retrouve effacé. Eh bien, nous étions ennemis de Dieu à cause de nos pensées. N'allez pas trop vite. Nous étions ennemis à cause de nos pensées. Mais Dieu, notre Père, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions ses ennemis, nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Pourquoi ? L'apôtre Paul prend soin de dire aux Corinthiens que si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses, mais dans cette réconciliation, il a fait tomber nos offenses sur Jésus. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs en Christ, Dieu nous montre qu'il est vraiment pour nous ce matin, dans la réconciliation avec Jésus-Christ. Il nous montre qu'il est pour nous, alors que nous étions ses ennemis. Et je comprends pourquoi le Saint-Esprit, dans le même chapitre, dans Romains 5:1, va afficher une réalité spirituelle, divine, véritable, grande et glorieuse. Ainsi donc, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette réconciliation nous confère la paix. La paix avec Dieu. Qui ouvre la porte à la paix de la part de Dieu. Et qui nous introduit dans la paix de Dieu. Repos complet. Assurance bénie. Sécurité totale. Pourquoi ? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ? Il n'a pas épargné son propre fils. Alors que j'étais son ennemi. Hein. Alors à combien plus forte raison maintenant que je suis avec lui réconcilié, serais-je sauvé par la vie de Jésus ? Si je suis sauvé par la vie de Jésus, je suis d'abord sauvé par la mort de son fils. Le salut a été accompli. Désormais, la grâce de Dieu qui est mon partage fait qu'étant objet de son alliance, je ne suis pas appelé à considérer les légères afflictions du moment présent, mais je lève ma tête et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait jour après jour pour moi en Jésus-Christ. C'est pourquoi dans cette attitude-là, frères et sœurs en Christ, le psalmiste peut dire « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Mais oui, si Dieu n'était pas mon secours, mon âme serait déjà dans la demeure du silence. Lui qui a connu tellement de tribulations. Et ailleurs, il dit, si, quand je dis mon pied chancelle, alors ta bonté, ô Dieu, me sert d'appui. Et voici, frères et sœurs en Christ, le dernier point. Parce que nous n'aurons pas à revenir sur ce sujet, je pense que nous l'avons épuisé. Et le dernier point, C'est ce que Jésus va dire à des Grecs qui sont montés à Jérusalem pour adorer Jésus, pour adorer Dieu. Et puis, en désirant adorer Dieu, dans Jean 12, le texte de chapitre 12 de l'évangile de Jean, ils vont dire à Philippe avec insistance, nous voudrions voir Jésus. Et dans la logique, on pourrait penser, c'est bien, des étrangers, des Grecs, sortent de leur pays et ils veulent absolument voir Jésus. Alors Philippe va le dire à André, et André et Philippe vont le dire à Jésus. Et en cette circonstance, vous savez ce que Jésus va faire? Il va profiter pour pouvoir afficher ce qui découle de l'œuvre de Dieu pour sa vie et ce qu'il est venu accomplir. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est un conditionnel divin, découlant de la volonté de Dieu pour Jésus. Mais s'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Eh bien, il s'identifie au grain de blé divin par excellence. Parce que derrière le grain de blé, ou derrière le blé, il y a la farine, n'est-ce pas? Parce que le grain de blé ne devient pas farine s'il n'est passé sous la meule. Ben oui, la farine pour devenir, le blé pour devenir de la farine doit passer sous la meule. Alors Jésus faisait déjà mention des souffrances qu'il allait endurer. Comme le blé passait sous la meule pour donner la farine, alors lui, le grain de blé divin, devait passer par la mort, reprendre vie, et après, porter beaucoup de fruits. Vous et moi, nous sommes le fruit de l'œuvre accomplie par Jésus ce matin. Mais, en regardant son exemple, nous devons comprendre aussi parce que l'enseignement de Jésus, c'est pas simplement donné dans une circonstance, mais tout au long de la vie chrétienne. Dans Jean 15, Jésus va amener l'une des règles importantes pour porter du fruit. Disant, je suis le cep et vous êtes le sarment. Mais tout sarment qui demeure en moi, alors mon Père l'émonde. Et cet émondage a pour but qu'il porte beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Cela veut dire qu'une fois que je suis devenu enfant de Dieu, je suis objet de sa grâce, automatiquement le Saint-Esprit en moi ne va pas me laisser ni dans la fainéantise, ni dans l'oisiveté, mais il va œuvrer pour que je puisse porter du fruit pour la gloire de mon Dieu. Vous avez remarqué que je n'ai pas posé la question, est-ce que mon frère m'a fait pour du fruit? Ça, Dieu le sait. C'est pas à moi de poser la question. Dans ce cadre-là, chacun de nous, nous savons où nous en sommes. Mais je conclue que si Dieu est pour moi ce matin, il sera contre moi. Prions le Seigneur.